et le journal nous est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Passe d'armes entre Ankara et Moscou au sujet d'Idlib. Le président turc annonce une opération imminente dans le dernier bastion rebelle et djihadiste en Syrie. La Russie prévient que ce serait la pire des options. Analyse dans un instant d'Aurélien Colli. La Chine expulse 3 journalistes du Wall Street Journal. Pékin a jugé raciste et sensationnaliste, un titre du quotidien américain. Nous joindrons notre correspondante en Chine, Dominique André. La vie privée des hommes politiques, sujet d'accrochage entre Christophe Castaner et Olivier Faure par médias interposés. Pour le premier secrétaire du PS, le ministre de l'Intérieur a franchi une ligne rouge, éclairage de Pierre Neveu. Et puis un espoir pour France Antilles, l'activité du quotidien est prolongée pour permettre à Xavier Niel de faire une offre de reprise. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie redoute une nouvelle escalade dans la région d'Idlib. Il met en garde le Conseil de sécurité de l'ONU contre un péril imminent après les dernières déclarations de la Turquie et de la Russie. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a prévenu aujourd'hui qu'il lancerait bientôt une offensive militaire contre les forces du régime de Bachar el-Assad dans le nord-ouest de la Syrie. Le Kremlin a aussitôt réagi, Aurélien Colli.
Oui, pour le porte-parole de la présidence russe, si c'est une opération de la Turquie contre le pouvoir légitime de la République syrienne et ses forces armées, ce sera la pire des options. La réponse n'est pas très précise à première vue, en réalité elle est très ferme. Pour Moscou, le régime syrien est légitime à poursuivre son offensive pour reconquérir Idlib, son territoire. Si la Turquie l'attaque, la Russie, son allié, ne laissera pas faire. Une mise en garde de Moscou à la hauteur des menaces du président turc qui a renouvelé aujourd'hui son ultimatum aux forces syriennes. Retrait de la province d'Idlib avant la fin du mois de février, en particulier des abords des postes d'observation turcs qui ont été encerclés par l'avancée du régime. Nous pourrons surgir à tout moment, ce n'est plus qu'une question de temps. Une opération est imminente, a répété le président turc en déplorant l'échec des discussions avec la Russie, mais en précisant aussi qu'elle se poursuivait. Moscou parraine le régime, Ankara les rebelles. Les deux États ont des intérêts divergents en Syrie, mais sont des alliés stratégiques qui coopèrent dans le domaine du nucléaire, du gaz, de l'armement, qui se sont déjà entendu ailleurs en Syrie. Et pendant ce temps-là, 3 millions de civils s'entassent dans le nord de l'enclave d'Idlib, poussés au sud et à l'est par les forces du régime, bloqués à l'ouest et au nord par la frontière turque qui reste fermée sous la seule protection des renforts envoyés par Ankara ces derniers jours.
Aurélien Colli en direct de Beyrouth. Les pourparlers sur la Libye, organisés à Genève, n'étaient pas très bien engagés. Ils sont maintenant à l'arrêt. Le gouvernement libyen d'Union, basé à Tripoli et reconnu par les Nations Unies, a décidé de suspendre sa participation aux travaux menés sous l'égide de l'ONU. Il dénonce les violations répétées de la trêve, Claude Guibal.
Oui, et encore une fois Aurélie, c'est une porte qui se claque. La dernière fois, c'était tout début janvier à Moscou. Le général rebelle Haftar qui quittait les pourparlers de paix. Et cette fois-ci, vous l'avez dit, c'est donc son adversaire, Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, qui décide de suspendre toute participation aux discussions de Genève. Entre-temps, les négociations menées à Berlin le mois dernier avaient pourtant permis aux deux parties de s'entendre sur une base de discussion censée pérenniser un cessez-le-feu qu'on savait fragile. Et de fait, cette trêve, elle a été maintes fois brisée. Hier, ce sont plus de 15 roquettes qui se sont ainsi abattues sur les ports de Tripoli et d'Al-Shab. Des tirs que l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar a justifié en disant qu'ils étaient dirigés contre un dépôt d'armes et contre un navire turc chargé d'armes. Alors vous savez que la Turquie est intervenue militairement pour soutenir son allié Fayez al-Sarraj, alors que le maréchal Haftar, lui, peut compter sur le soutien de la Russie, des Émirats ou encore de l'Égypte. Le gouvernement de Fayez al-Sarraj dénonce donc une volonté d'entretenir le chaos pour pousser à bout la population. Il réclame des mesures fermes contre Khalifa Haftar. Et la situation, elle semble aujourd'hui inextricable, tant ce chaos libyen est le terrain d'affrontement par procuration d'une myriade d'acteurs internationaux dont aucun n'entend mettre en œuvre la première des mesures qu'il faudrait prendre pour amener la paix en Libye, le respect de l'embargo sur les armes.
Claude Guibal, le nouveau coronavirus a atteint l'Iran où 2 personnes testées positives sont mortes, mais l'Organisation mondiale de la santé se félicite des énormes progrès effectués selon elle dans la gestion de l'épidémie. On arrive à diagnostiquer éradiquer le virus partout maintenant et des systèmes sanitaires efficaces ont été mis en place, note l'OMS. Autre bonne nouvelle, en paralysant l'activité en Chine, l'épidémie a fait chuter les émissions de dioxyde de carbone du pays, mais cet effet risque de n'être que très momentané. Le virus est par ailleurs source de nouvelles tensions entre la Chine et les États-Unis. Un article du Wall Street Journal sur l'épidémie a fait bondir les autorités chinoises au point de prendre une sanction inédite. Trois journalistes du grand quotidien américain sont expulsés. Ils ont 5 jours pour faire leurs bagages et quitter le pays. Pour le club des correspondants étrangers en Chine, il s'agit d'une tentative manifeste d'intimider les médias étrangers, Dominique André.
Le Wall Street Journal dispose d'une dizaine de journalistes en Chine. 3 d'entre eux ont 5 jours pour partir. La raison de cette sanction sans précédent depuis 1998, c'est le titre d'un article « La Chine est le véritable homme malade de l'Asie », écrit non pas par le bureau du journal à Pékin, mais par un universitaire américain dans les pages opinion du quotidien. Pour le gouvernement chinois, ce titre est raciste et sensationnaliste. Il calomnie le peuple. Selon un journaliste chinois, ce terme est offensant car il était utilisé à l'époque coloniale de la guerre de l'opium. En pleine épidémie, le gouvernement chinois traque non seulement l'opinion publique sur les réseaux sociaux, mais tente, relève le club des correspondants étrangers en Chine, d'intimider la presse étrangère. Depuis plusieurs jours, l'Internet et les VPN qui permettent de contourner la censure sont la cible d'attaque. La trêve sino-américaine n'aura pas duré longtemps. La veille, les États-Unis avaient modifié le statut des médias chinois aux États-Unis, traités désormais comme des missions diplomatiques et des organes de propagande.
Dominique André, correspondante de France Culture en Chine. L'Union européenne veut rattraper son retard sur les États-Unis et la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'exécutif européen vient de dévoiler son plan de bataille dans le secteur des données, avec l'intention de jouer un rôle central à l'avenir dans ce secteur hautement stratégique et sensible. Et c'est un modèle d'intelligence artificielle responsable qui a été défendu par la présidente de la Commission européenne. On retrouve Angélique Bouin à Bruxelles.
On a perdu une bataille, celle des données personnelles face aux GAFA, mais pas la guerre, dit-on à la Commission. Si l'on s'en donne les moyens, l'Union peut devenir un leader dans l'exploitation des données industrielles. Ce sont ces milliards d'informations qui seront captées demain dans les villes connectées, les usines, les hôpitaux ou encore les maisons, et qui, une fois traitées informatiquement grâce à l'intelligence artificielle, offriront de nouveaux services pour économiser par exemple de l'énergie ou encore améliorer l'offre de soins. Investir dans la recherche et l'innovation, créer des normes communes en Europe est donc une priorité pour la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui veut créer un marché européen unique de la donnée, marché qui devra par ailleurs répondre à des règles éthiques strictes. C'est ce qu'elle a expliqué lors de son point de presse.
We want citizens to trust the new technology.
On veut que les citoyens aient confiance dans les nouvelles technologies. C'est la raison pour laquelle on veut promouvoir une intelligence artificielle centrée sur l'humain et responsable. On sera particulièrement attentif aux secteurs où les droits humains essentiels sont en jeu. Par exemple, le recrutement, les soins de santé, les transports, la police ou l'application de la loi. L'intelligence artificielle devra servir la population et toujours être respectueuse des droits humains.
La Commission va lancer une vaste consultation de tous les acteurs concernés, entreprises, syndicats, associations, jusqu'en mai prochain, avec comme objectif de proposer une législation sur le sujet d'ici la fin de l'année.
Existe-t-il une intelligence artificielle à l'européenne? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera aux invités du temps du débat à 18h20. Le Royaume-Uni s'apprête à mettre en place des mesures drastiques pour contrôler l'immigration après le Brexit. Le gouvernement conservateur britannique veut attirer les jeunes diplômés et réduire l'arrivée d'ouvriers et de travailleurs peu qualifiés en mettant en place un système à points. Rien n'est encore définitif, mais tel qu'il est imaginé aujourd'hui, ce système, eh bien, il faudra obligatoirement parler anglais, avoir une offre d'emploi avant de venir au Royaume-Uni. Un doctorat ou un très haut salaire permettront aussi d'avoir des points supplémentaires. Ce nouveau système cible les jeunes actifs surdiplômés dont le pays a besoin pour développer la recherche, les services financiers, le secteur technologique, mais il ferme clairement la porte aux travailleurs européens peu qualifiés et ça inquiète le patronat Antoine Gignot.
Même si la CBI, la Confédération du patronat britannique, évoque les bénéfices d'une immigration régulée, contrôlée, les chefs d'entreprise mettent le gouvernement en garde contre une probable pénurie de main-d'œuvre après le Brexit et demandent un système plus flexible, avec une inquiétude affichée ouvertement dans les métiers du bâtiment et du côté des transporteurs de fret. 13% des chauffeurs de poids lourds, explique l'Association nationale, viennent de pays européens. Mais le secteur le plus compliqué, ce sera sans doute celui de la restauration. Les responsables responsable de la chaîne Prêt à manger, s'alarme face au futur recrutement. Aujourd'hui, disent-ils, un CV sur 50 seulement est d'origine britannique. Il y a des postes qui sont impossibles à remplacer par des machines et des métiers que personne ne veut faire, précisent les responsables de la Fédération des boissons et des aliments. Le meilleur exemple, c'est celui des usines de découpe de viande. 60 à 70% d'ouvriers étrangers parce que les Britanniques ne veulent pas y travailler. En Écosse, enfin, Nicola Sturgeon, la première ministre, parle de plans dévastateurs pour l'économie, une menace pour l'industrie de la pêche et le tourisme, dont le poids est crucial et où un poste sur cinq est occupé par un travailleur étranger.
Antoine Gignot à Londres. Le débat politique ne vole décidément pas très haut ces jours-ci. Après le retrait de la candidature de Benjamin Griveaux à la mairie de Paris, l'événement a été plus que largement commenté. Et si beaucoup ont dénoncé la diffusion des vidéos à caractère sexuel de l'ancien porte-parole du gouvernement, certains se sont laissés aller à des commentaires sur sa vie privée, jusqu'à cet affrontement à distance entre le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur la ligne à ne pas franchir. Racontez-nous, Pierre Neveu.
Oui, c'est le dernier soubresaut de cette affaire Benjamin Griveaux, parce qu'Olivier Faure a récemment critiqué l'ancien candidat à la mairie de Paris en dénonçant son incroyable légèreté. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'en est personnellement pris ce matin au premier secrétaire du PS. C'était sur l'antenne de France Inter.
Je connais bien Olivier Faure à titre personnel depuis longtemps. Je l'ai accompagné dans ses divorces, dans ses séparations. Et c'est vrai que j'ai entendu, en étant assez étonné, ses leçons de morale.
Une attaque personnelle insupportable à laquelle Olivier Faure a décidé de répondre publiquement cet après-midi.
Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une question de principe. Christophe Castaner a commis une faute grave.
Olivier Faure, qui rappelle l'exigence de probité et de dignité dans la vie publique, il demande au président de la République de convoquer le ministre de l'Intérieur et d'en tirer les conséquences. Il n'y avait ni menace ni attaque personnelle, se justifie cet après-midi sur Twitter Christophe Castaner. Pour le spécialiste de la commission de la communication politique et président de MCBG Conseil, Philippe Moreau-Chevrolet, l'affaire Griveaux a ouvert une boîte de Pandore dans la vie politique. Il sera désormais difficile de faire machine arrière.
Un cap a clairement été franchi vers plus d'agressivité, vers finalement tous les coups deviennent permis en fait, en fin de compte, dans les campagnes électorales. C'est quelque chose qui devient naturel. C'est-à-dire qu'au fond, avec les réseaux sociaux comme caisse d'amplification, on en vient à tirer profit de toutes les faiblesses réelles ou supposées de l'adversaire pour créer le buzz, pour finalement riposter d'une manière très forte, pour être certain de contrôler le flux médiatique et pour être certain d'imprimer sa marque.
Alors les propos du ministre ont déclenché une vague de réactions, toutes tendances politiques confondues. Pour Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, le ministre des Ragots se vautre dans la fange. Christophe Castaner fait preuve de bassesse dont est capable ce pouvoir, déclare le président des sénateurs LR Bruno Retailleau. Plus dégueulasse, je cherche et je ne vois pas, s'emporte l'ancien ministre socialiste Laurence Rossignol.
Pierre Neveu, les banques cherchent à s'adapter à l'évolution des usages et la Caisse d'épargne veut tester une nouvelle formule pour maintenir sa présence dans les zones rurales. Elle veut expérimenter, avant l'été, l'emploi de conseillers indépendants en contrat avec la banque. Ils remplaceraient, dans certains cas, les conseillers bancaires salariés. Mais cette idée suscite un certain émoi dans le secteur, Anne-Laure Jumet.
Oui, il s'agit pour l'instant d'une expérimentation à l'initiative d'une Caisse d'épargne au niveau local, en l'occurrence celle de Bretagne, Pays de Loire. L'idée, c'est effectivement de remplacer des salariés par des travailleurs indépendants dans ces agences implantées en milieu rural, un service externalisé donc, pas de charges à payer, tout en maintenant une présence dans ces zones, une présence qui reste importante, explique la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire dans un document interne. Le retrait d'enseignes en milieu rural pourrait nuire à notre image, mais dans le même temps, peut-on lire encore dans ce document, il faut faire attention aux coûts dans un environnement contraint, comprenez les taux bas et la concurrence notamment de nouveaux entrants. Une solution dénoncée en tout cas par les syndicats, d'abord parce que ces travailleurs ne seront pas régis par les accords et conventions collectives du secteur, ensuite parce que ces personnes ne seront pas suffisamment formées, disent-ils, et puis parce que ça introduit une logique commerciale encore plus développée qu'aujourd'hui, selon Frédéric Guyonnet, président du SNB-CFE-CGC, premier syndicat du secteur.
Ces conseillers clientèles indépendants vont être rémunérés par commission par rapport aux ventes qu'ils vont réaliser. Cela veut dire que derrière, les clients vont être bien équipés en produits bancaires puisque, en fait, ces conseillers ne seront rémunérés que s'ils vendent des produits bancaires, notamment de la caisse d'épargne. On est dans l'ubérisation du secteur bancaire. Là, on ouvre clairement la boîte de Pandore dans ce domaine-là.
Reste que cette expérimentation, qui serait une première dans le secteur, n'est pas encore validée par les autorités compétentes. La Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire doit ainsi recevoir encore le feu vert du gendarme bancaire.
Anne-Laure Jumet, le parquet de Nanterre annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour abus de biens sociaux au préjudice de Renault. L'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, est notamment visé. Il aurait organisé deux soirées d'ordre privé au château de Versailles en échange d'une convention de mécénat signée entre Renault et l'établissement qui gère le château. Une offre inédite vient redonner de l'espoir aux 235 salariés de France Antilles. Ce titre de presse régionale, le seul en Martinique, Guadeloupe et Guyane, avait été placé en liquidation judiciaire le 30 janvier et il n'est plus distribué en kiosque. Mais, surprise, l'homme d'affaires Xavier Niel a déposé une lettre d'intention auprès du procureur de la République. Le fondateur de Free est déjà co-actionnaire du Monde. Il vient de racheter Nice Matin et il pourrait donc aussi sauver la presse d'outre-mer, Maxime Tellier.
Oui, c'est une offre complètement inespéré hein, dans cette histoire que l'on pensait terminée, l'histoire de la presse quotidienne dans les Antilles et en Guyane. Il y a deux semaines, les journalistes avaient même titré en une un au revoir à leurs lecteurs. Et puis il y a eu cette lettre d'intention. Rodolphe Lamy est l'un des représentants du personnel en Martinique de France Antilles.
Les salariés, on est un peu tombés des nues, on a cru au départ à une blague, à une plaisanterie, hein, parce que pour nous, c'était quasiment fini, on n'avait pas encore digéré l'aventure France Antilles, mais bon, on n'avait plus réellement d'espoir. Xavier Niel serait intéressé par une reprise de l'activité sur les trois territoires avec une presse quotidienne régionale, au moins sur certains des territoires. Ça, c'est ce qu'a écrit le procureur dans sa requête. Et la sauvegarde d'un nombre significatif d'emplois.
Mais pour l'instant, les salariés n'ont eu aucun contact avec Xavier Niel. Ils ont écrit à l'administrateur judiciaire afin de le rencontrer. L'homme d'affaires a jusqu'au 2 mars pour déposer son offre. Délai supplémentaire accordé par le tribunal de commerce de Fort-de-France. Compte tenu de l'enjeu social, 235 postes sont dans la balance. Enjeu démocratique aussi pour éviter un désert d'informations. Ce serait la seule région française sans presse quotidienne.
On imagine que s'il s'est positionné, sachant très bien qu'il était hors délai, c'est qu'il a quand même des éléments pour proposer un projet concret d'ici le 2 mars. S'il prend la peine de faire une lettre d'intention, sachant que l'activité était déjà terminée, que le délai était dépassé, c'est que quand même, on espère qu'il y a quelque chose de crédible derrière.
Et auparavant, une seule offre de reprise avait été envisagée, mais la somme n'avait pas été réunie. Malgré le soutien des pouvoirs publics et de patrons locaux, il aurait fallu plus d'un million d'euros. Cette fois, l'espoir renaît, mais l'espoir reste flou.
Maxime Tellier. Les femmes sans domicile fixe sont de plus en plus nombreuses. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, leur proportion a augmenté de 70% en 11 ans. Et aujourd'hui, les structures féminines sont pleines. Dans les semaines à venir, un nouveau centre dédié aux jeunes mères sans-abri devrait ouvrir dans le deuxième arrondissement de la capitale, ce qui pourrait permettre de désengorger d'autres structures pour femmes. Le reportage à Paris de Lucie Loconi.
J'ai rangé mes affaires, mes parfums, tout
dans ça. La rue, elle se cache, se déplace pour survivre. Ici, 22 femmes ont trouvé une place au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Claire Amitié dans le 19e arrondissement. Mais l'établissement accueillant uniquement des femmes de 18 à 25 ans est plein. Ashley est arrivée à temps.
Je me suis retrouvée en situation précaire. C'était la fin de mon contrat en CDD pour un emploi, en gros. Et après, je me suis retrouvée à la rue. À la rue, je dormais un peu par-ci, par-là. Bah, ça a duré, on peut dire, presque 9 mois, quelque chose comme ça.
Les résidentes sont dirigées grâce au centre d'insertion et d'orientation en fonction de leur parcours personnel. Souvent, leur passé ne leur permet pas d'intégrer un hébergement mixte. C'est le cas de Fatoumata, elle est arrivée en France il y a 2 ans. Impossible pour elle de cohabiter avec des hommes.
L'esclavage que moi j'ai vécu ici, c'est pas une femme qui m'a fait en fait. En quelque sorte, c'est un homme qui m'a fait. J'ai rencontré vraiment des moments difficiles. Moi, c'est mon assistant social qui m'a ramenée ici. Déjà, j'étais pris en charge dans une association qui s'appelait Comité contre l'esclavage moderne. Mais là, je peux dire que ça va, je reprends un peu confiance, mais là, ça va.
Reprendre confiance, cela prend du temps. Et l'objectif de la réinsertion n'est pas de libérer des places rapidement, selon Jessica Quinones, chef de service au CHRS Claire Amitié Paris.
On cherche vraiment à ce que elle sorte et qu'elle soit vraiment sécure, qu'elle ne retourne pas dans le dispositif hébergement par la suite, ça n'aurait pas de sens. C'est pour ça que les durées de prise en charge sont plus longues aussi, c'est qu'on sait d'où elles partent et de les voir sortir, c'est bien.
Sur Paris, rien que pour le mois de janvier, 116 femmes ont appelé le 115 par jour pour demander une place places d'hébergement. Seulement 30 d'entre elles ont obtenu un toit. Le problème, selon Marie Lazzaroni, chargée de mission Projet Femmes au SAMU social, c'est que tous les centres ne répondent pas à toutes les problématiques.
Les femmes sortant de maternité, c'est une vraie problématique. Des femmes qui restent des jours, voire des semaines dans les urgences parce que faute de trouver une place d'hébergement une fois qu'elles ont accouchées, qui étaient hébergées en tant que femmes isolées, mais qui, une fois accouchées, en fait, on n'arrive pas à leur trouver de place. Donc ça, effectivement, c'est une vraie problématique. Et donc, le fait d'ouvrir des centres qui vont prendre à bras-le-corps les problématiques que les femmes ont pu rencontrer, c'est extrêmement nécessaire, effectivement.
L'adjointe à la solidarité de la mairie de Paris a annoncé l'ouverture prochaine d'une structure pour les jeunes mères. Elle pourrait accueillir 140 femmes.
Demain jeudi, le soleil sera généreux sur une bonne moitié sud du pays, plus au nord un ciel gris et une nouvelle dégradation pluvieuse qui arrivera par le nord-ouest accompagnée de vent. Au lever du jour, il fera entre 2 et 7 degrés, les maximales atteindront 10 à 13 sur la moitié nord, 13 à 18 sur le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.